Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
RMC.
Mount card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans Basket Time numéro 101. Et oui, déjà, et au lendemain de ce match 5 des finales NBA entre Golden State et Boston, on va longuement y revenir dans ce podcast. Pour vous servir, la raquette la plus solide du paysage audiovisuel français, j'ai nommé Fred Weiss et Stephen Brun. Salut les gars.
Salut, salut Arnaud, salut tout le monde.
Ça va bien, petite nuit ou pas? Vous êtes quelle école?
On rattrape le matin. Hop, le league passe et on regarde le match, mon grand.
Sans se faire spoiler?
Moi, je m'en fous, ça me dérange pas.
Ah, c'est vrai, t'arrives à voir. Moi, j'ai du mal à regarder le match en connaissant le résultat.
Tu peux me dire la fin de Sixième Sens, je le regarderai quand même, y a pas de problème.
Ouais, c'est un peu différent quand même, Sixième Sens.
Et puis Alexandre Biggerstaff, qui comme moi, est promu dans le 5 majeur en l'absence du meneur Pierre Dorion Senior. Salut Alex.
Hello Arnaud.
Pareil, quelle école, on se lève tôt, on fait pas de nuit blanche quand on regarde des grands matchs?
J'ai fait nuit blanche et j'ai cru que ce podcast démarrait jamais de par ma faute parce que j'ai fait nuit blanche.
Donc petit ouais, nuit, voilà, petits yeux pour
moi,
Alex.
Je suis transparent, je suis honnête.
Blanche, mais il était au trinquet. après,
cette nuit, Golden State a donc pris l'avantage pour la première fois en finale NBA cette année. Victoire 104 à 94 à domicile. Les Warriors mènent 3-2 avec match au TD Garden de Boston dans la nuit de jeudi à vendredi avec le trophée Larry O'Brien qui sera là parce que les Warriors peuvent être sacrés. Cette question, avec ce qu'ont montré les coéquipiers de Stephen Curry, le titre peut-il désormais leur échapper avec donc un seul succès à glaner? On reviendra aussi sur le match des Celtics et allez, la drôle de rencontre de Jason Tatum. Et puis ensuite, messieurs, vous me donnerez vos plus grands comebacks de joueurs après une grosse blessure parce qu'il y a quasiment 3 ans, jour pour jour, Klay Thompson se rompait un ligament croisé et là on le voit cavaler et mettre des shoots comme avant sur les parquets de NBA. Et puis le quiz un peu pêle-mêle tout à l'heure pour conclure ce 101e numéro de Basket Time.
Thompson knocks down a long three. Cool. Nice pullback. Nails the three. Wiggins super aggressive right there. Gets inside. Shot is good. Out of bounds. Curry makes his move on White. Drives inside. Left-handed layup off the glass.
On salue la belle prod avec le bon son de Geoffrey Charpé. Alors cette question, Golden State qui prend l'avantage dans cette série, ils sont sur 2 victoires de suite, ils avaient pris le match 4 à Boston. Stephen, Fred et Alex, est-ce que le titre est-il désormais promis à Golden State?
Écoute, moi je le vois dans ce sens-là. Je le vois dans ce sens-là.
Oui ou non? Oui ou non déjà?
Oui. Mais s'il faut se mouiller, je te dis oui. Après, si tu veux pas,
oui.
Tu veux pas l'explication.
Vas-y, Steve, pour tes explications, 3 oui.
Non, parce que moi je vois pas, j'imagine pas Boston gagner 2 matchs de suite face aux Warriors. Et ce qui est inquiétant pour Boston, et ce qui est même rassurant de l'autre côté pour les Warriors, c'est qu'aujourd'hui Golden State se retrouve à 3-2 en gagnant un match 5 avec un très petit Stephen Curry. Et ça, les Celtics, quand ils vont se réveiller ce matin ou hier soir dans leur chambre d'hôtel et qu'ils vont regarder la feuille de stats en disant on a perdu avec un Steph Curry qui a vendangé, qui a fait 0-8 à 3 points, ça va être compliqué parce que Steph Curry passe rarement 2 fois de suite à côté d'un match. Mais c'est la logique des choses en fait. Aujourd'hui, tu t'aperçois que Boston, si Jaylen Brown et Jason Tatum font pas 2 matchs de mutants ensemble, ils ne peuvent pas battre les Warriors. Les Warriors ont trop de gens autour de Curry capables d'alimenter la marque et capables d'être bons. Donc moi, si tu me demandes aujourd'hui à 3-2 si c'est fini, je te réponds oui, Arnaud.
Fini en 6 ou fini en 7?
Fini.
Finito. Finito.
Fini.
Stephen Curry, 37 minutes, 16 points, 7 sur 22 au tir et ce fameux 0 sur 9 à 3 points.
9.
On rajoute 8 passes décisives. Il était sur 132 matchs en playoff, en ayant marqué au moins un tir à 3 points. Ça lui est jamais arrivé de ne pas marquer pour Stephen Curry. La seule fois où c'est pas arrivé, parce qu'il jouait pas, tout simplement en 2018, lors de la série contre les Spurs, le match 1 contre les Pelicans. Non, mais c'est pour dire, ça s'est jamais produit en carrière en playoff.
La série est hallucinante.
En même temps, t'imagines un spectateur qui va voir son premier match de la saison, on en parlait tout à l'heure, tu l'as évoqué, je suis d'accord avec toi, imagine voir son premier match de la saison, un match de playoff, il va voir Steph Curry qui fait 0 sur 9.
C'est un tweet que j'ai vu passer commentaire d'un fan de NBA français qui disait, t'imagines, t'as payé $20,000 ta place. J'exagère un peu, mais ça coûte cher, hein. Au moins, presque $1,000 pour aller voir un match 5 des Philadelphia NBA à San Francisco, le Golden State Boston, et tu vois Stephen Curry qui met pas un seul tir à 3 points.
Non, mais c'est génial, tu rentres dans l'histoire, parce qu'il était, tu parles de son nombre de shoots marqués, de matchs de suite. Enchaîné avec un panier à 3 points, mais t'as pas parlé de la saison régulière. Et là, ça, je crois que ça fait 233 ou un truc comme ça. Donc c'est complètement monstrueux. Alors je rejoins complètement Stephen, mais je rajouterai, normalement, en plus, les Warriors sont super forts sur le troisième quart-temps. Et là, ils se font massacrer sur le troisième quart-temps. Et malgré ça, ben, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Il y a des shoots improbables, comme Poole qui met le shoot à la fin du troisième quart-temps. Voilà.
Qui change la dynamique. Ça change un peu la dynamique.
Ouais, pour moi, ce shoot, il est hyper important.
Boston a la main sur le match au troisième quart-temps.
Exactement. Sur la fin, normalement, ils sont censés marquer que 21 points. Ils en marquent 24. Finalement, ils repassent devant au score. Et d'un seul coup, ça change tout.
Non, mais ce qui était dingue, c'est que plus 12 à la mi-temps pour les Warriors, avec Boston qui mettait pas un tir dedans en première mi-temps. Les Warriors qui mettaient pas du tout extérieur. Je crois que c'est 3 sur 17 à la mi-temps seulement pour les Warriors.
Ils sont à 3 sur 15 de l'autre côté, hein. En commençant par un 0 sur 12, quand même, à 3
points. Mais voilà, quand t'as quand même un peu de chance d'être qu'à moins 12, alors que les Warriors font 3 sur 17 à 3 points, Alex.
Ouais, ça confirme surtout ce qu'on avait entreaperçu sur les premiers matchs de la série. Au final, on retrouve un Boston qui est brouillon en attaque, qui repère beaucoup de ballons une nouvelle fois. Ça avait pas payé dans les premiers matchs. Et puis surtout, on retrouve surtout un Boston en toute logique cramé. Ils sont cuits. Les Celtics, ils sont cramés de leur saison et de leur campagne de play-off à outrance où il y a eu des matchs 7 de partout. Parce que on l'a dit, on l'a répété, cette équipe, elle est ultra combative. On sait qu'elle va donner sa chair et ses os jusqu'au bout. Sauf que ils sont complètement cramés là. Ils ont joué contre Milwaukee, ils l'ont fait. Ils sont revenus nulle part. Ils l'ont joué contre Miami, ils l'ont fait. Ils sont revenus aussi à chaque fois. Ils n'ont fait que ça durant tous ces play-offs. C'est une équipe très difficile à lire et on n'a pas arrêté de le dire ici. Mais au final, il y a une fraîcheur qui manque absolument face à ces Warriors. Elle se traduit dans beaucoup de domaines et aussi au niveau du banc. Encore une fois, hier, t'as 31 points à 10 de la part du banc des Warriors contre les Celtics.
T'as compté 3 points d'Aaron Nesmith quand le match était
fini. Je suis sympa. Je fais que les chiffres. Mais non, mais ça veut dire quand même beaucoup de choses. C'est qu'on avait ciblé les points faibles de Boston sur à chaque fois des réajustements à faire d'un match à un autre. Au final, ils sont dépassés malheureusement sur la fraîcheur physique. Ils sont dépassés par le contingent des Warriors. Ce n'est
alors,
que logique.
Revenons aux Warriors. On va parler plus longuement des Celtics dans la deuxième partie de l'émission. Mais les Warriors, moi, j'ai envie de parler d'un homme, Andrew Wiggins.
Andrew Wiggins, il est
incroyable.
Capital. Andrew Wiggins, il est capital parce que, alors, il fait des choses fantastiques. Il va au rebond pour avoir des deuxièmes chances.
Il a plus de 30 rebonds sur les deux derniers matchs.
Il défend, il se tape Jason Tatum.
Mais c'est ça qui est fort. D'un côté, il est fort en attaque et ça, on était quasiment habitué depuis quelques temps maintenant, mais quand on le voit se taper Tatum en plus, c'est incroyable.
C'est fort. Et puis les paniers qu'il met, c'est des paniers importants dans des momentum importants.
Il a mis des fadeaways de malade.
Sur la première mi-temps, Curry est absent, Klay Thompson est absent. C'est lui qui tient offensivement cette équipe des Warriors sur des tirs parce qu'il profite de sa taille. Il a détruit Derek White qui défendait, mais qui peut
plus caresser. Turn around sur White, je crois qu'il le voit même pas.
Ah, Derek White, il lui caresse les balls, hein, Derek White à chaque fois. Il regarde, il dit bah c'est super. Et Andrew Wiggins est capital. Alors je suis pas en train de te vendre qu'Andrew Wiggins MVP des finales, ça sera Steph Curry. Mais Andrew Wiggins est le deuxième meilleur joueur des Warriors sur ces finales-là. Il a tout ce que les Warriors manquaient, en fait. Quelqu'un capable de stopper le meilleur scoreur adverse, ce que n'est pas capable encore de faire Klay Thompson parce qu'il n'a pas retrouvé toutes ses jambes. Il est là au rebond parce que Kevon Looney, hier, prend 3 fautes très rapidement. Ouais. Il prend une sévère sur un bloc en mouvement et après, il fait des fautes, il est obligé de sortir. Donc, c'est Andrew Wiggins qui va prendre des rebonds. Il est monstrueux, Andrew Wiggins. Il est monstrueux.
26 points, 13 rebonds, 12 sur 23 au tir. Il a juste allé ce 0 sur 6 à 3 points qui est un petit peu fâcheux, mais il a tenu les Warriors, c'est vrai, un peu en première mi-temps. On l'a jamais presque vu aussi fort, Andrew Wiggins, numéro 1 de la draft 2014, on le rappelle.
Oui, mais je me rappelle qu'Alex disait que ça passerait jamais ce cap et tout ça, et on était tous plutôt d'accord avec ça. Vraiment, il est en train de montrer des choses.
Pardon ? Le cap de Go To Guy.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Pareil.
Bien sûr.
Précise.
C'est exactement ce que je voulais dire. Et concrètement, il est en train de nous montrer autre chose. Il est en train de nous montrer que dans une bonne équipe, il est capable de d'apporter vraiment.
À toute proportion gardée, parce que le rôle n'est pas le même, mais un petit peu dans le profil, ce que faisait un peu Kevin Durant, qui était alors avec un talent offensif tout autre, mais sur le profil, pouvoir un petit peu défendre sur un peu plus des grands. Là, on est allé sur un joueur qui a vraiment un rôle, qui n'est pas l'option offensive numéro un, mais aller un petit peu dans ce schéma des Warriors, il vient combler un peu ce départ à toute proportion gardée, évidemment.
Oui, je viens de le dire.
Grosse proportion gardée.
Il l'a dit 4 fois quand même, donc
il
ça va.
Non, mais oui, il est là pour trouver d'autres solutions offensives, mais les Warriors ont beaucoup de solutions offensives. Sortie de banc, Poole, Gary Payton the second est fantastique dans le jeu sans ballon, dans les coupes, dans le dos de la défense.
Désolé, mais on a beaucoup critiqué Green. Moi, j'adore ce qu'il a fait, surtout sur ce match-là.
Draymond Green, il a réagi hier, il met 4 points premier quart-temps, il a 8 ou 10 à la mi-temps, il pousse la balle, il fait des interceptions.
Au niveau des passes, au niveau de la lecture de jeu, c'est incroyable. Ça
change 8 points, 8 rebonds, 6 passes.
Bon, c'est du bon Draymond Green. Maintenant, il lui manque, encore une fois, qu'il met pas un panier. Gros. À la fin de la première mi-temps, il a un panier.
Ouais, mais est-ce que c'est le plus important? Un moment, je me rappelle justement de Wiggins qui rate un layup, il rate un deuxième shoot sur le rebond, et finalement, c'est Draymond Green qui le retrouve, qui le remet en confiance, qui lui permet de marquer le panier. Bah, c'est hyper important, et je trouve que le taf de Draymond Green, il a été beaucoup critiqué, mais sur ce match 5, il est énorme.
Est-ce que hier, il n'y a pas, alors Alex a commencé à en parler, on va parler de Boston dans un instant, mais est-ce que Steve Kerr n'a pas eu tout bon hier? On a senti qu'il a peut-être même pris un peu l'ascendant sur Udoka, il a senti dans ses changements, dans ses rotations, parce qu'on voit Jordan Poole qui ressort.
Que je te dise mon ressenti, moi, avant le shoot de Poole à la fin du troisième carton, je pensais que c'était les Boston qui avaient gagné. Parce que concrètement, ils avaient le momentum, et je suis d'accord, et tu l'as dit tout à l'heure, ça a tout changé, et pour moi, ça a changé beaucoup de choses. T'as le momentum, tu passes devant, tu te dis, ok, t'as fait le plus dur, et en fait, ils mettent un shoot à la dernière seconde, et tu te dis, mais ils sont imbattables, quoi. En fait, tu peux rien faire. Et là, en plus, physiquement, ils sont un peu dans le dur, et ben voilà. Et
donc Boston
voilà,
fait son retour, tout début de troisième quart-temps, il met un 10-0,
mais quand tu parles de, est-ce que Steve Kerr prend le dessus sur Udoka, moi, hier, quand je regarde le match, ce que fait, il met Udoka, notamment en première mi-temps, parce que on parle de Steph Curry qui passe à côté. Attention, ce que fait Boston défensivement, ils sont en bugne à bugne, ils le coupent du ballon, ils restent en strict quasiment tout le match sur Steph Curry, et Steph Curry est pas impliqué dans le jeu parce qu'il touche pas le ballon. Ouais. Donc Udoka a eu cette adaptation-là qui a fonctionné sur Steph Curry. Maintenant, s'il pensait que Andrew Wiggins allait mettre 26 pions, que Jordan Poole et Gary Payton allaient mettre 16 et 14 points, bah Udoka, il peut pas non plus tout contrôler.
Il y a quand même quelqu'un qu'il faut saluer sur les deux noms qu'on a prononcés juste avant, Wiggins et Gary Payton. C'est Bob Myers. Je pense que personne ne parle assez de Bob Myers, qui est le grand patron des Warriors. C'est lui qui est allé faire un deal, un trade, il y a 2 ans, pour aller choper Andrew Wiggins contre D'Angelo Russell et en récupérant Jonathan Kuminga. Je pense qu'à l'époque, il s'est fait, mais excusez-moi le terme, on lui a fait caca dessus. Hein,
personne n'y croyait,
vraiment. Mais tout le monde l'a souillé.
Caca dessus, gastro en plus.
Hein. Ouais, vraiment, salement. Je vais juste citer 2 secondes à Arnaud.
Vas-y, je t'en prie.
Andrew Wiggins, c'est comme la dernière feuille sur le haut d'une poubelle remplie. Un gaspillage de minutes. Mars 2019.
Qui dit ça?
Des journalistes américains. En 2020, Nick Wright de la Fox. Wiggins est un très mauvais joueur de basket. Il va gagner plus de 95 millions de dollars sur les 3 prochaines saisons. C'est inqualifiable ce que les Warriors viennent de faire. Tout est fini pour eux. On ne verra plus jamais Steph Curry en finale NBA. Il n'y a pas d'avenir pour eux.
T'inquiète pas que les réseaux vont s'occuper de lui. Hein.
Ça a tourné en rond. Bref. Les Warriors sont habitués aux finales NBA depuis des années maintenant, et tout ça sur une même politique, et un homme, Bob Myers, qui est allé faire tous les trades inimaginables que l'on pensait tous pas réussir. Fred faisait allusion à ça tout à l'heure sur la capacité d'Andrew Wiggins. On se disait, un mec qui a été dans l'ombre de LeBron dès son arrivée dans la ligue, parce que tradé de Cleveland à Minnesota, il est dans l'ombre de Jimmy Butler, il est dans l'ombre de Karl Anthony Towns, un mec qui est voué être un gâchis, il était dans l'ombre de Joel Embiid à la fac. Et aujourd'hui, il est en finale NBA, et s'il se pointe pas hier pour sauver un petit peu les fesses de Steph Curry, bah on est peut-être à 3-2 Boston.
Tu parles du travail de Bob Myers.
Le travail de cette franchise qui...
Est-ce que c'est la franchise qui travaille le mieux?
Voilà, on y est.
Sur un delta de 10 ans, force est de constater oui, quand tu fais 6 finales en 8 ans, tu peux que t'incliner sur le travail des Warriors. Mais Alex parle de Bob Myers, j'ai envie aussi de parler des garçons qui sont les tauliers, qui sont Draymond Green, Klay Thompson et Steph Curry, qui permettent à des joueurs comme ça aussi de s'intégrer dans le collectif, d'avoir l'aura nécessaire pour dire
un noyau aussi fort.
Oui. Et puis quand Steph Curry, il a dû dialoguer même Steve Kerr avec Andrew Wiggins en disant, mon grand, est-ce que tu penses que t'es content de ton début de carrière, des attentes qu'on avait? qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie d'être champion NBA? Tu as envie d'aller en finale NBA? Eh ben, sois capable de faire ça. On te demande de faire ça, ça, ça.
L'en transformer.
Et on t'emmènera tout là-haut. Et c'est aussi la puissance des leaders que sont Curry, Green, Steve Kerr et Klay Thompson. Ça aussi,
mais,
c'est fort d'avoir des
leaders qui sont cool et qui ont envie de gagner et qui n'ont pas cette ambition uniquement que pour eux-mêmes. C'est vrai qu'en NBA, il y a souvent cette ambition uniquement pour soi-même. Et on a vraiment l'impression que dans cette franchise, bah, les leaders, c'est les leaders qui veulent gagner, qui ont vraiment l'esprit collectif. Et c'est vrai qu'ils ont dû parler forcément.
Et ça, tu peux le faire uniquement quand bah, t'as des leaders qui sont là depuis le départ, bien en sûr. Fait. Pas des mecs qui ont fait des franchises, qui passent de franchise en franchise, parce que quand tu fais une franchise par-ci, une franchise par-là, quel discours tu vas avoir auprès d'un joueur? Quelle crédibilité? Là, le mec, il est là, il a grandi avec les Warriors. Les trois, ils ont grandi avec
bon,
les Warriors.
Après, pour les garder, ça leur coûte cher. Hein. Ils payent une luxury tax.
Encore une fois,
il faut aussi peser le pour et le contre.
Il y en a d'autres qui payent la luxury tax.
Ouais,
avec
mais aussi,
avec des
c'est
joueurs
ceux qui payent la plus grosse,
hein,
je crois. Donc ils ont fait le taf.
Il y en a qui payent la luxure, tout court.
Allez, messieurs, on passe à Boston. Pour vous, d'ailleurs, ces finales sont pliées. Le match 6, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi. On ne sait jamais, effectivement. Mais c'est vrai que dans ce qu'on voit, les Warriors, peut-être dès jeudi soir, enfin, en tout cas, dès vendredi tôt dans la nuit, peut-être les Warriors en 6 ou alors en 7 avec un retour à venir du côté de la baie de San Francisco. Allez, on passe aux Celtics. Sont-ils trop stressés, trop fatigués?
Tim, you've been with the Celtics a whole lot through this postseason. What are they putting at the top of their priority list for tonight?
Turnovers. If the Celtics don't turn the ball over, nothing else matters. They'll win the game.
Mishandles it, lost it out of bounds. A turnover for the Celtics, their 16th in the game.
They're 14-2, Malika, in the playoffs when they have 15 or fewer turnovers. They're 0-6 in the playoffs when they have 16 or more. That's what this comes down to. If they don't let Kevon Looney go crazy on the offensive glass, if they take care of the ball, they have more possessions than Golden State, I think it doesn't matter what Steph does. I think the Celtics will win this game tonight, and they'll win one of the next two.
18 ballons perdus pour les Celtics hier. 9 en première mi-temps, 9 en deuxième mi-temps. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je l'ai vu, ces pertes de balles devant ma télé, je me suis dit, j'ai bondi, je me dis, c'est pas possible parce que ça me semblait être des pertes de balles évitables. On a vu, certes, agressivité des Warriors bien présents pour couper les lignes de passe, mais voilà, des pertes de balles évitables sur remise en jeu, un peu de l'inattention.
Après, ils jouent dur, hein. Les Warriors, on l'a quand même vu. Ils t'attrapent souvent les bras, c'est toujours à la limite. Honnêtement, à un moment, je me suis dit, mais l'arbitre ne siffle rien du tout. Ça laisse beaucoup jouer défensivement. Et après, c'est vrai que, bah, les Celtics, ils sont pas super sûrs, balle en main. Ils envoient parfois les ballons derrière les tribunes, parfois ils dribblent sur le pied, parfois ils donnent le ballon comme ça, et c'est souvent pour le bâton pour se faire battre, parce que ça permet à Golden State d'aller marquer des paniers faciles en face. Donc effectivement, c'est compliqué, il faudrait mieux gérer le ballon, mais encore une fois, je me répète, il y a beaucoup de contacts et ça défend très très dur.
Les Warriors, le stress, la fatigue, les Warriors, le cocktail.
La fatigue, moi je veux bien l'entendre. Merde, t'es en finale NBA.
Le cœur, Steve.
Ah, le cœur, en finale NBA, oui, t'es en vacances après sur une finale NBA. Le prétexte de la fatigue, oui, il y a eu plus de matchs avant sur les séries. Mais j'ai pas envie que ce soit une excuse pour les Celtics. Moi, le premier quart-temps des Celtics, il est scandaleux. Il est scandaleux. Tu retournes à 2-2, tu joues un match à l'extérieur, tu t'es fait froisser par Steph Curry. Il faut mettre de l'intensité. Ils sont marchés dessus. Les Warriors sont impressionnants défensivement sur le premier quart-temps. Et un mec que j'ai envie de pointer du doigt sur le premier quart-temps, c'est Jason Tatum. Mec,
il a rien fait.
Pendant 8 minutes, t'as pas pris un tir. T'es censé être le leader de ton équipe, t'es à 2-2. Emmène tes mecs. Montre-leur, ok, je suis le patron de cette équipe, je vais prendre le ballon, je vais mettre quelques paniers, je vais vous rassurer, on est à l'extérieur. Il est absent et il sort tôt d'ailleurs. Udoka le sort tôt. Il est absent et
8 minutes.
Après il le remet beaucoup. Après il le remet beaucoup parce qu'il a un coup de chaud. Mais il lance mal le match. Jason Tatum, il lance très mal le match.
Et là, les Warriors font un premier écart, ils vont à plus 10. Ah, le match de Tatum, 27 points, 10 rebonds, 10 sur 20 au tir, 2 sur 6 au lancer.
Ouais,
il met notamment 16 points, deuxième et troisième carton.
Ouais, sur courant alternatif.
Tatum, regarde ses pourcentages sur le match.
Ouais, c'est ça.
C'est terrible. Il démarre à 56%, il finit à 24 dans le quatrième.
Ou là, non, il a croqué énormément.
Honnêtement, je veux bien entendre qu'on puisse pas prendre en considération la fatigue, mais Tatum sur la fin de match.
Pourquoi il est fatigué?
Il avance plus, hein.
44 minutes.
Parce qu'il regarde Jaylen Brown qui, lui, fait rien du tout.
Oui, mais il est très esselé, quoi.
Il est esselé. Et ça, par contre, moi, ça me dérange pas qu'un mec croque parce qu'il veut porter son équipe dans le quatrième carton. Il est cuit, il est pas dedans. Mais au moins, il se cache pas. Je préfère ça alors qu'il se cache.
C'est son rôle de démarrer le match et de mettre le tempo pour ses coéquipiers, de mettre les repères.
Est-ce que justement, il sait qu'il est un peu sur la réserve? Il se dit, ok, j'ai peut-être commencé un peu doucement et je vais essayer d'accélérer. Sauf que ça a été un mauvais pari.
Mauvais pari. Et puis on parle, Alexandre a parlé tout à l'heure. qui pour donner du soutien? Marcus Smart met 20 points, il fait 7 sur 15 au tir.
Il prend une grosse technique grossière aussi à un moment.
Oui, mais Jalen Brown fait un mauvais match. Mais après, Derek White est transparent. Grant Williams est transparent.
Horford est à 9 points, je crois.
Horford fait un bon passage en troisième quart-temps, mais à l'image de l'équipe, Tatum lance le troisième quart-temps formidablement bien. Filoche, 2 points.
C'est clair.
Il est monstrueux. Mais après, il n'a pas de soutien.
En même temps, il joue quasiment à 5 offensivement.
Il en laisse 4 aussi sur les lancers des hommes Tatum.
Déjà, c'est compliqué. C'est quoi que t'as pas du tout de soutien, du tout, t'es remplaçant.
Notre ami Bébert Williams, qui était incertain, il est courageux par contre, je pense qu'il est
sur une jambe.
Robert Williams, il fait le taf, il va au rebond, il est là sur la finition, il met un petit poster, je crois, à Draymond Green d'ailleurs, à un moment sur la baseline. Mais Jason Tatum, moi je lui en veux sur le début de match en fait. Parce que ces mecs-là, tout le monde est un peu inexpérimenté de ce genre de situation-là, et ils attendent de voir leur go-to guy dire, vous allez voir, je vais vous faire rentrer dans le match. Donnez-moi le ballon sur du post-up, ce qu'il y a eu après par la suite dans le deuxième et troisième quart temps. Mais il s'efface, en fait. Il est transparent. Il veut pas prendre les responsabilités du début de match.
Est-ce qu'il s'efface ou juste physiquement, diminuer?
Peut-être qu'à la fin, il a quand même réagi.
Warriors, hein.
Ouais, parce que la fin, tu vois, encore une fois, il est cramé de chez cramé. Donc, imagine s'il commence plus tôt, mais déjà dès le début de la deuxième mi-temps.
Mais qui pour vous passe plus au travers? Tatum ou Brown?
Brown.
Oui.
Brown, et puis c'est pas
18 points, 5 sur 18.
Et 0 sur 5 à 3. En plus.
44 minutes pour Brown et Tatum.
Moi je veux bien lui taper dessus, mais avec légèreté. Mais le problème de Boston, c'est qu'ils ont besoin des deux à 55 ou 60 pions cumulés pour gagner un match. Et là, tu l'as pas. Là,
ils sont... qui te met
15
points.
Sur 38,
sinon,
les deux.
Qui te met des points? T'as Smart qui peut, ponctuellement.
N'oubliez pas que le match 1, à leur fois, est à 26.
C'est ça.
Mais ça, on l'avait dit. Ça, c'est
bien sûr.
C'est un one shot. Ça n'arrivera pas. C'est un facteur X. Mais j'aimerais bien qu'Adéric White mette des pions. J'aimerais bien que, quelqu'un d'autre que Grant Williams, qui nous a shooté 17 bombinettes en demi-finale.
Ça avec ça casse gueule dès le départ.
Et White, c'est 0 sur 4 en 21 minutes. Il prend 4 shoots, White.
Ouais, mais c'est pas.
Pourtant, la carte blanche.
Est-ce que là, on voit la différence, tout simplement, entre le roster des Warriors et le roster des Celtics, où évidemment, on est en finale NBA et on resserre. En gros, les Celtics jouent à 7 et les Warriors à 8. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, mais après ça.
Ouais, mais ils jouent à 7 avec des gens qui apportent pas, et les autres jouent à 8 avec certains.
Plus complémentaires aussi.
Comment on apporte? Mais au début de finale, on l'avait dit que l'avantage, moi, Luban était en faveur des Warriors. L'expérience en faveur des Warriors. Personne a vécu ces moments-là à 2-2, un match à l'extérieur, en finale NBA chez les Celtics. Personne a vécu ce moment-là. Donc, il y a une appréhension, il y a une manière d'aborder le match. Golden State, ils leur ont tapé dessus sur le premier quart-temps. Et ben, eux, ils ont mis des ballons dans les tribunes. 13 points sur contre-attaque, pour les Warriors, au profit des balles perdues des Celtics. Mais tu peux pas gagner.
Surtout le match 6, t'es obligé de l'attaquer, mais comme jamais.
Tu peux pas aller garder.
C'est impossible. Et surtout que t'as dans ta tête, tu te dis, le dernier match, on l'a perdu. Steph Curry a fini à 0 sur 9 à 3 points. Steph Curry ne peut pas faire deux matchs d'affilée en loupant.
Mais même Draymond Green le disait, hein. Je sais qu'il va nous faire un match exceptionnel.
Oui, c'est sûr.
Donc,
écoute.
Les Warriors,
rappelez Robert Parrish, peut-être.
Ouais, ça peut, Kevin Garnett, si tu veux, tout le monde.
Bon, Larry Bird.
Larry Bird, oui.
Larry, évidemment, The Legend. Ça prouve que les Celtics doivent pour aller, alors c'est pas fait, hein, mais il manque
attention,
quelque chose.
Parce que là, on est quand même en train de dire que ça va faire 4-2 et qu'on va se faire gifler.
En fait, à chaque fois qu'on a dit que.
Oui. on n'est pas à l'abri de passer pour les truffes la semaine prochaine.
Là, la clé, c'est.
On enfonce des portes ouvertes en disant que, attention, il y a quand même forte probabilité que ça fasse 4-2.
La clé, comme disait Alexandre, c'est pour le match 6, c'est tout de suite d'enflammer, mettre ses Warriors direct dans les cordes. On a eu quand même des séries à l'image d'hier. Il y a un gros changement de lead dans le troisième quart-temps quand les Celtics reviennent.
L'inverse de la série.
On a vu des troisièmes quart-temps être favorables aux Warriors, des quatrièmes quart-temps être favorables aux Celtics. Je crois qu'il y avait une stat à un moment, même au moment du match 4, sur cumuler que les quatrièmes quart-temps, Boston outscorait de 40 points les Warriors. Elle est où la clé pour Boston pour aller forcer un match 7
d'entrée? Couteau entre les dents, tu le rends dedans, parce que sinon eux ils sont en confiance, eux ils ont rien à perdre parce qu'ils savent qu'ils ont encore une chance à la maison, ils ont deux balles de match, donc forcément à partir de là, si tu rentres pas dans leur tête directement t'es dur et tu perds pas de ballon et tu joues encore une fois sur Tatum, par contre tu fais le pari inverse, c'est-à-dire que tu commences directement avec lui, tu gagnes pas.
Ouais, il faut lever le curseur d'intensité, quitte à faire des grosses fautes, mais surtout Tatum, Brown présent. Mais il faut que le supporting cast soit bon. Je te parle pas de Grant Williams de mettre 24 points. Je te parle de Derek White mettre 9 points, Grant Williams mettre 10 points.
Équilibré, ouais,
c'est ça. Tous ces mecs-là mettent un petit peu de panton. Ils peuvent pas faire des matchs à 1 ou 2 points et se dire Jalen Brown, Jason Tatum, allez-y, emmenez-nous sur un match.
5 mecs à 3 points là sur le banc de Boston. Si tu veux faire
Là, la clé pour les Celtics. et prier pour que Steph Curry ne refasse pas un Steph Curry au TD Garden.
Amener voilà, sur un profil basket de l'Est, c'est-à-dire aller jouer très physique et tout. On voit que les Warriors ont énormément de répondants.
Et jouer du contexte. Parce que tu sais très bien qu'un TD Garden chauffé à blanc avec la possibilité de voir Golden State fêter le titre sur ton parquet, il faut que tu t'en serves de ça.
Bon, vous avez, on a dit tout à l'heure que vous voyez les Warriors s'imposer, mais match 6, est-ce qu'on peut avoir un match 7 ou pas dans cette série?
Oui. Moi, je pense que oui, mais encore une fois, il faut le prendre du bon bout d'entrée. Parce que si tu commences tranquille, trop soft, les Warriors, vont dérouler. Mais par contre, si t'es dur, bah ouais, pourquoi pas.
Réponse dans la nuit de jeudi à vendredi, 3h du matin, pour ceux qui veulent se lever tôt. Donc ce match 6 de ces belles finales NBA. Messieurs, on va parler des grosses blessures et des gros retours, parce que oui, il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, Klay Thompson se rompait un ligament croisé du genou, et aujourd'hui, il court comme un lapin.
And Durant grabbing that right leg. It's the right calf that put him out.
Paul George suffering what appears to be an injury.
Today, we're going to take a deep dive into the ups and downs of the career of Sean Livingston. Along with a dislocated left kneecap and broken left leg, through this injury came a long road to recovery, starting with him having to learn how to walk again.
Thompson running the floor and a foul. And Thompson grabs his left knee. Klay Thompson obviously in some pain. He grabbed that left knee right away.
Les grands joueurs victimes de grandes blessures, quel est pour vous le plus gros comeback d'un joueur après avoir subi un gros pépin durant sa carrière? On va commencer par Fred, parce que voilà, les extraits sonores qu'on a entendus parlaient de KD. Victime.
Ouais, bah, j'ai choisi Kevin Durant justement pour continuer avec les Warriors, pour rester dans le thème un petit peu. Alors lui, il s'est fait une rupture du tendon d'Achille, hein. On s'en rappelle, il avait 31 ans, c'était au match 5 des finales 2019. Alors il avait eu des soucis de mollet, et donc on suppose que c'est un peu à cause de ça qu'il s'était fait ça. C'est très compliqué. On sait que quand on fait une rupture du tendon d'Achille, ça t'aide normalement à marcher, à courir et à sauter. Donc en gros, pour un basketteur, c'est exactement ce qu'il faut pas se faire. En plus, il a 31 ans, donc tu te dis, le mec, c'est un peu compliqué. Après, il y a plein de joueurs qui ont eu ce problème. Il y a eu des joueurs qui sont pas sortis. Il y a des joueurs qui ont dû s'adapter leur jeu. Il y a Dominique Wilkins qui a été incroyable parce que lui, il s'était fait à 32 ans. Et après, il a encore été deux fois All-Star. Il tournait à 30 points de moyenne. Donc comme quoi, on peut revenir, mais c'est pas la norme. Donc lui, bah, concrètement, il est revenu. Hein, parce qu'en 2018-2019, à Golden State, il tourne à 26 points, 6 passes, 6,4 rebonds, à 35% à 3 points. Et bien quand il revient en 2020-21, alors il ne joue que 35 matchs, oui, mais il est presque à 27 points, à 45% à 3 points. Donc concrètement, on se rappelle bien de lui aussi, pour autre chose, pour les Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, il a marché sur la France. En finale, il a 29 points, 9 sur 18 au shoot, et 29 d'évaluation. Donc concrètement, si on n'a pas une médaille d'or, c'est à cause de lui, donc il est revenu trop bien. Et cette année, il fait encore une saison magnifique, avec quasiment 30 points de moyenne, 6,4 passes, 7,4 rebonds, et à presque 39% de réussite à 3 points. Donc il est revenu en forme, on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne aussi bien, mais on a surtout l'impression que Kevin Durant, il a été blessé, et il est revenu comme
s'il ne s'est jamais blessé,
c'est
ça
jamais rien passé.
Le plus impressionnant, Stephen, c'est de voir Kevin Durant, une grosse blessure. Moi j'ai le contre-exemple de Derrick Rose, dont la blessure a totalement stoppé sa carrière, il a dû changer son jeu. Kevin Durant, il n'a pas changé.
Il n'a pas changé, il met toujours dedans comme un cochon, après il fait toujours 2m11, non, il a très bien récupéré. Après, la médecine aujourd'hui est quand même fantastique. Par rapport à il y a 20, 30, 40 ans, les méthodes d'opération te permettent de bien récupérer. Après, Kevin Durant, c'est pas non plus... il est grand, il est athlétique, mais il a pas une énorme masse musculaire.
Pas super lourd, ça,
donc
clair.
Il a pas besoin, je veux dire, quand il a perdu, il a pas perdu énormément de muscles, non. Kevin Durant, donc il a pas eu besoin non plus de faire une énorme rééducation au niveau des quadris et des mollets, même si ça a été nécessaire, mais oui, c'est exceptionnel d'être revenu à limite encore plus fort qu'il n'était avant sa blessure.
Vous, dans vos carrières, Fred et Stephen, est-ce qu'il y a des blessures qui vous ont marqué, qui ont obligé à changer des choses, Fred?
Moi, concrètement, j'ai eu une hernie discale, et quand j'ai eu mon hernie discale, c'était juste avant la draft, justement, et le professeur Saillant, qui est quand même plutôt réputé, m'avait dit, Fred, tu ne rejoueras plus jamais au basket. Donc j'ai dû adapter mon jeu moi aussi, et après ça a été beaucoup plus compliqué, mais c'est vrai que les blessures ça peut stopper ta carrière.
Moi, j'ai eu un problème parce que sur des slides défensifs, je m'étais pété l'adducteur, et après j'ai pu
mais t'as adapté ton jeu, tu défendais plus.
J'ai adapté mon jeu, donc j'ai arrêté de défendre Arnaud. Arnaud, mais regarde, ah oui, parce que je suis sérieux, il me regarde, dit ah ouais.
Bah, je sais pas,
ah, c'est pour ça que tu défendais plus.
Je connais pas ton dossier médical, bah t'aurais pu avoir un problème.
Non, moi j'ai jamais eu de
déplacement latéral.
J'ai dû faire 15 entorses à droite, 15 entorses à gauche, mais j'ai jamais privé de
plus des traumatismes, ouais. Et parce que juste avant les années 2000, 99, l'hernie discale en début de carrière.
En 99, oui, en début de carrière. Voilà. En 2000, je joue. Je venais de me faire opérer. Et c'est pour ça que je vais pas tout de suite à New York, d'ailleurs, pour la petite histoire, parce que je devais me rétablir de cette hernie discale.
Et évidemment, c'est.
Et j'ai jamais réussi.
Alex, non.
Moi, je suis tombé à vélo une fois.
Ce qui l'empêche de dunker maintenant.
C'est le poignet, non, c'est l'épaule. Alex, justement, on parlait des Warriors. Tu as aussi choisi un joueur passé par les Warriors.
Ouais, Stephen en avait parlé il y a quelques temps dans un autre podcast. Je vais parler de Sean Livingston, quatrième choix de la draft 2004, parce que son histoire est absolument terrible. C'est déjà un garçon, un meneur de 2 mètres, de plus de 2 mètres. Donc, il faut voir que c'est vraiment une tige, quoi. Il est très longiligne et il était super fragile déjà sur ses 3 premières saisons NBA parce qu'il va jouer un total de 101 matchs sur 246 possibles. Donc c'est avec les Clippers. Déjà à l'époque, on se dit bon, vaut mieux pas qu'il lui arrive quelque chose de grave à ce garçon-là. Malheureusement, ça va arriver lors de la saison 2006-2007, lors d'un match face aux Charlotte Bobcats. Et sur une mauvaise réception, sa jambe gauche va se disloquer totalement, provoquant à la fois une rupture de plusieurs ligaments, une luxation du péroné et du tibia, et la déchirure du ménisque. Donc vous imaginez bien en fait que la jambe et le genou a totalement explosé, à tel point qu'une artère était tout proche de rompre et de provoquer une gangrène dans sa jambe. Et les médecins à l'hôpital lui ont dit « il est possible qu'on t'ampute ». Mec, ça faisait 3 saisons qu'il était en NBA. Voilà, ce sont des super nouvelles qui donnent du bonheur. Mais ça arrive, le bonheur, ça arrive. Là, c'est terrible comme ça. On lui dit, tu pourras plus jamais jouer au basket. On lui dit, tu vas peut-être perdre ta jambe. Au final, ça se passe bien. Une longue rééducation pour lui. Entre 2008 et 2013, il sait que sa carrière doit totalement changer. Il devient ce qu'on appelle vulgairement un journeyman, un garçon qui vient pallier à droite à gauche, un sorte de bout de scotch dans une équipe sur le banc de franchise en franchise. Il fait Miami, il fait OKC, il fait Washington, Charlotte, Milwaukee, Cleveland. Et puis, il y a un déclic en 2010, Washington, et grâce à une autre histoire assez dingue de la NBA, celle des armes à feu de Gilbert Arenas, Sean Livingston va pouvoir choper une place sur le roster des Washington Wizards après la petite embrouille avec Javaris Crittenton et Gilbert Arenas. Il chope donc une place dans le roster, il commence à rejouer petit à petit et donc il part dans d'autres franchises et il atterrit du coup à Brooklyn derrière où il commence à se montrer dans une équipe qui était incroyable. Sean Livingston est dans le 5 de départ avec Kevin Garnett, Paul Pierce, Deron Williams et Joe Johnson. C'était la pré-retraite des fameux Nets de l'époque. Et puis, il se montre vraiment bien jusqu'au point où les Warriors repèrent la bonne idée, la bonne affaire. Sean Livingston est de retour. Et en 2014, il signe... En 2014, il signe avec Golden State. 8 ans après sa blessure dramatique, eh bien, il atteint les finales NBA. Il devient champion NBA en 2015, 2017 et 2018 avec les Warriors. 12 ans après sa blessure, 3 bagues au doigt et surtout, l'histoire d'un courage monumental absolu quand on vous dit que tout est terminé, non.
Une histoire bouleversante.
Et aujourd'hui, il est retraité. Et
pour
il
Sean
est dans
Livingston, le roi du shoot intermédiaire.
Ouais.
Oui, parce qu'à 3 mois, il était meneur, il était pénible à défendre, il était grand en plus.
Et il défendait très bien de son côté en plus.
Une histoire incroyable qui prouve, Stephen Fred, que si on y croit, qu'on lâche pas, on peut y arriver, parce qu'aujourd'hui, il a une bague. Hein.
Il y a des bons médecins.
Il y en a 3 même. Pas des bagues de mariage.
Oui, après, il faut avoir un contexte génétique favorable aussi. Hein. Même quand on se blesse, pour revenir, il faut avoir
mental.
Du mental, mais aussi un physique qui est prêt à se rétablir.
Mais tu parlais de Kevin Durant qui était fin aussi tout à l'heure. Oui. C'est le cas de Livingston. Est-ce que ces garçons-là ne récupèrent pas mieux
possible.
Je te remercie de me regarder quand tu dis « eux étaient fins ». Merci beaucoup.
Voilà pour Sean Livingston, le choix d'Alex Biggerstaff. Stephen Brun, ça va être un peu plus old school, mais c'est
à
bien.
À l'ancienne, les amis. Parce qu'avant Patrick Ewing, il y avait déjà un roi au Madison Square Garden. C'était Bernard King, drafté en 7e position en 77 par les Nets. Il a un peu transformé d'ailleurs le poste d'ailier. C'était costaud, rapide, explosif et surtout scoreur. Peut-être le premier véritable scoring machine de l'ère de la Ligue. En 85, il se brise le genou, mais brise le genou, les croisés, les cartilages, l'os de la jambe. Il fallait une reconstruction entière, et en 80, réparer un genou comme ça, c'est pas garanti que tu joues au basket, et c'est même pas garanti que tu remarches normalement. Et ben lui, figurez-vous qu'il a rejoué au basket, et plutôt bien, parce qu'il est même redevenu All-Star après son opération. Il a débarqué aux Bullets de Washington. Trois saisons à plus de 20 points, dont une à 28,4 en 91, alors qu'il avait déjà 34 ans. Quand il part en 93, quand il arrête sa carrière, il est 16e meilleur scorer all-time, 4 fois All-Star, intronisé au Hall of Fame en 2013. Et pourquoi je considère ça comme le plus gros comeback? Bah parce que à l'époque, la médecine était pas ce qu'elle était aujourd'hui.
Donc c'est un peu comme si tu jouais au docteur Maboul.
Exactement. Donc réparer un genou dans les années 80, je trouve que c'est une prouesse exceptionnelle qu'a fait Bernard King. Et pour les plus jeunes qui nous écoutent, allez voir sur YouTube Bernard King, premier énorme scoreur en NBA, un ailier très athlétique et explosif, très beau à voir jouer.
Est-ce qu'il restait souvent chez lui?
Pardon?
Est-ce qu'il restait souvent chez lui, Bernard King?
Pourquoi? C'est un gars de la night, non?
Non, c'est Bernard Lhermitte aussi.
Ah, Bernard Lhermitte. Le frère de Thierry.
Exactement.
Ouais, je sais pas si on va l'accorder
je
celle-là.
Je sais pas pourquoi ça manquait un peu de vanne.
Moi, je me souviens, Bernard King, idole de Carmelo Anthony, qui, quand il est venu à New York, il y avait une citation où il rêvait d'être Bernard King, c'est-à-dire d'être le grand scoreur au Madison Square Garden.
C'était Bernard Quinn, Carmelo Anthony.
Et moi, j'ai choisi, alors c'est vrai que ça m'avait marqué parce que ça a été diffusé sur toutes les télés, c'était l'été 2014. Paul George, scrimmage de Team USA qui cherchait à préparer la Coupe du Monde en Espagne 2014 je crois de mémoire et fracture tibia péronée en direct à la télé des images horribles exactement il a 24 ans c'est le leader des Pacers d'Indiana à l'époque et on se dit là ça peut le faucher cette blessure pour Paul George il reviendra 257 jours plus tard et depuis il a enchaîné les saisons titre olympique à Rio en 2016 il a continué à être All-Star dans le premier 5 NBA en 2019 il finit d'ailleurs 3e au vote MVP cette année-là il y a juste ouais cette saison où là c'est une blessure au coude qui lui a coûté presque 3 mois de saison et peut-être d'ailleurs aux Clippers une place assurée en playoff NBA puisqu'ils ont fait les play-in et ils se sont fait sortir par les Pelicans donc voilà pour Paul George qui m'a plus ouais, marqué parce qu'on affreuse. On avait vu cette image affreuse, sur toutes affreuse, les télés ouais.
Ah, il part en contre-attaque et il se réceptionne en fait son pied
sur la base,
sur sur la base du panier
de la mousse
c'est catastrophique
et pour le coup lui son jeu a quand même bien changé après ça
oui, même s'il est quand même encore athlétique hein, notre ami Polo mais qu'est-ce qu'il est c'est un beau joueur de basket hein, Polo bravo
et on a hâte de le revoir évidemment la saison prochaine
les Clippers qui sont si tout le monde est en mode santé de vrais outsiders pour le titre NBA
avec Kawhi,
Paul George, Bébé Covington, Nicolas Batum of course curieux de voir tout ça
allez messieurs le moment que vous attendez ce sera un contre un contre un c'est le quiz dans le podcast Basket Time
Oh, j'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est parti chez Sting.
Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en
et là,
premier.
Et là, c'est après ou pas?
C'est Alex.
Le roi des corvères ménagères.
Ouais, exactement. C'est plus trash que ça, hein. C'est plus violent.
Fuck you.
Bah, tu te rapproches.
Asshole, motherfucker, son of a bitch.
I lock that shit up, boy. Fermé sa gueule à cette merde.
Chris Mullin,
il est là, pépère.
Kevin Durant.
Exceptionnel, Stephen.
Ah, le quiz, c'est vraiment du basket dans la rue, hein, street. Hein. Ça s'invective, c'est chaud, c'est
très violent.
C'est violent, verbalement et physiquement aussi. Alors,
qu'est-ce
messieurs,
préparé, là, pêle-mêle. J'ai l'impression que c'est un pêle-mêle, non?
Ouais, c'est un petit pêle-mêle en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on a évoqué.
Il y a pas une vraie thématique sur le quiz.
Non, c'est inspiré de tout ce qu'on a dit un petit peu.
D'accord. Voilà.
Alors, j'ai commencé par une citation. Je vais vous la faire en anglais. Je vais vous dire qui a dit ça, cette phrase.
Who said that?
Voilà, okay. Je vous le fais en anglais, en VO. Please people, stop asking me what's wrong with
la mère de Draymond Green.
Voilà, Stephen Brun.
Draymond Green's mom.
Le tweet de la mère de Draymond Green. S'il vous plaît, les gens, arrêtez de me demander ce qui ne va pas avec Dray, donc son fils. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un clone qui joue. Et où est Draymond qu'on l'aide? Voilà, tout simplement. Un tweet avant le match. Il a d'ailleurs réagi, hein, Draymond Green, au propre tweet de sa mère.
Hein, shut up, mom. Non, Draymond.
Non, quand même pas. Il a du respect pour sa maman. Mais donc voilà, c'est.
Moi, ça m'emmerderait que ma mère mette un tweet quand même pour me dire que tu oui,
mais j'ai quand même l'impression qu'en NBA, c'est
pas
la norme. Les parents, les femmes, tout ça, ça.
Je sais pas, ma mère se connecte à toute heure pour me dire, mais qui c'est nul, mon fils?
Rappelle-moi.
C'est dingue.
Tu comprends mieux pourquoi il est comme ça maintenant aussi.
Ouais.
T'imagines, ah oui, je pense qu'il sait de qui tenir, effectivement. Ouais. Je trouve ça dingue, une maman de joueur en pleine finale NBA. Je ne sais pas ce qui va pas avec mon fils, c'est peut-être un clone. Enfin voilà, ça, on doit bien se marrer dans les repas de famille chez les Green.
Ouais. Pas avoir beaucoup de moments de silence. Ouais,
un point pour Stephen. On a parlé du 0 sur 9 à 3 points de Stephen Curry.
Quelle est la pire série à 3 points
Quelle est la pire performance réalisée en NBA simplement? La pire performance à 3 points.
Ah, avec 0 de tir inscrit.
Ouais.
0 sur
0,
13.
0 sur combien, c'est ça?
Ouais.
0 sur 18.
C'est pas bon. 0 sur 18, c'est pas bon.
0,14.
C'est pas bon.
0,12. 1.
Non, toujours pas. Allez-y.
0 sur 14.
0,11.
11. 0,11.
j'ai dit 12, 13, 14.
Alors, messieurs, pour.
C'est qui?
Il y en a 3. Ah. Si vous en citez plus que 2, vous avez 2 points.
C'est compliqué.
Steve Kerr.
Non, pas Steve Kerr. 3 joueurs ont fait 0 sur 11. 0 sur 11 en NBA.
Klay Thompson?
Non, pas Klay Thompson.
Gilbert Arenas?
Non.
Kevin Durant?
Non.
Bradley Beal?
Est-ce que c'est des joueurs connus?
Oui. Les trois sont connus.
Russell Westbrook?
C'est en activité?
Il y en a encore deux en activité.
Stephen Curry,
c'est bon. Il avait fait ça, il avait égalé les deux autres, pour vous donner une idée, contre les Sixers en 2017.
Steve Nash,
non.
Les deux autres sont en activité?
Non, il y en a qu'un.
Il y a Curry et un autre qui est en activité.
Voilà.
C'est quel porciné peut shooter sans scrupule, même à tout.
Alors, celui qui n'est plus en activité.
James Harden.
C'est aussi, ça s'arrête normalement.
Celui qui n'est plus en activité a fait aller les beaux jours des Celtics dans les années 2000, là.
Paul Pierce.
Ray Allen.
Non.
Antoine Walker!
Quel croquet! Stephen marquera les deux points. Et l'autre, c'est Trey Burke.
Burke pour le coup.
Stephen là qui plie un petit peu le match, mais c'est pas terminé, vous allez voir. Alors puisqu'on est dans la gabegie de tirs à 3 points, le plus grand nombre de tirs à 3 points tentés en un match en play-off.
22.
Non, c'est pas 22.
En play-off.
19. En play-off.
19.
Non.
18.
20.
18. c'est Stephen. Alors si vous voulez, ils sont 3.
Ils sont 3 encore.
Ouais. 3 avoir.
Grant Williams de Celtics?
Non. 3 avoir shooté 18 fois 3 points
Stephen
en
Curry.
Stephen Curry, évidemment.
Klay Thompson?
C'était avec les Pelicans en 2015.
James Harden?
Non. Vous les avez cités. Il y en a un que vous n'avez pas cité tout à l'heure dans.
Steve Nash?
Non.
Mec,
il y en a.
On t'a dit, vous l'avez pas cité, t'as dit 8 fois son nom.
Non,
c'est la merde.
Il y en a un que vous avez suivi.
Un est encore en activité, l'autre ne l'est plus. Et c'est des très gros shooters, hein. c'est des gros dons, c'est pas des kidam. Hein.
Kyrie Irving?
Non.
Reggie Miller?
Non. Les anciens, c'est année 2000.
À l'époque, Reggie, je crois que ça ne voyait pas 18-3
points. Tracy McGrady?
Bah ouais, mais il a dit en 2000. Tu vois.
Alors, celui qui n'est plus en activité, c'était sûrement conférence Est, évidemment. C'était contre les Bulls de Chicago en 2009. Lui était au Celtics.
Ray Allen.
Il a envoyé 18 pastilles.
Ouais. Il a envoyé 18 pastilles dans ce match. Et le dernier, toujours en activité, c'était le 24 avril 2019 contre le Thunder d'Oklahoma City. Il joue aux Trail Blazers de Portland.
Damien Lillard. Ouais.
Effectivement, 18 tirs à 3 points. 18
tirs sans compte.
C'est pas mal. Hein. C'est
bon, sur ce quiz, ça fait
11 max et j'ai l'impression d'avoir croqué comme un cochon.
Sur ce quiz, ça fait 5 pour Stephen, 2 pour Fred ou 1 pour Fred.
Non, 2-2.
2 pour Fred et 0 pour Alex. Et j'avais prévu que 2 points. Est-ce que tu veux tenter sur ce quiz?
Tente ce que tu veux. Bon, oui.
Tu mets le all-in?
Ouais, allez, si tu veux.
Messieurs, on a parlé d'Andrew Wiggins, numéro 1 de la draft 2014, qui pourrait être champion NBA. Est-ce que vous pouvez me donner, messieurs, chacun votre tour, les numéros 1 de draft qui ont été champions NBA en carrière?
Je commence.
Bah, quel salaud celui-là.
LeBron.
Quel salopio
celui-là. LeBron James, c'est bon, évidemment.
On tourne comment?
On tourne sans
aiguille
d'une main.
Banane, quoi.
Stephen.
Hakeem Olajuwon.
Hakeem Olajuwon, c'est bon. Alex Biggerstaff. J'ai retrouvé 16 noms. Parmi les plus évidents, je suis remonté jusqu'aux années 70 quand même.
Pas 16. Hein.
On peut arrêter le tour là, déjà, moi, pour moi.
Il y en a qui sont faciles quand même. Là, vous pouvez. Alex, est-ce que tu vas trouver numéro 1 draft et champion NBA? Pas forcément avec la franchise.
Oui, bien sûr.
Il était drafté, évidemment. C'était LeBron James. Hakeem, si. Il était drafté par sa franchise.
Non, j'ai une grosse hésitation. En fait,
allez, vas-y. Allez, Alex, faut y aller.
Tim Duncan?
Tim Duncan, oui, 97.
Bravo, Alex.
Fred.
Shaquille
O'Neal, évidemment.
Bravo.
C'est bon.
David Robinson?
David Robinson, c'est bon.
C'est toi qui me le donne avec Tim Duncan.
Alex, avec cette belle passe décisive pour Stephen juste avant. Allez, il y a encore des récents, on peut pas obligé de taper dans les années 90-80. Hein. Tuc, 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 tuc. Alex, ça sèche. 3, ouais. 2, 1. Alex éliminé. Fred.
Magic.
Magic Johnson, c'est bon.
Ah, bravo.
Et oui.
Ah, oui. Oui, bravo.
Stephen, oui, bravo. Fred a pris l'avantage.
Je croyais qu'on avait dit Magic.
Non, franchement, dit. Franchement, vous allez vous en vouloir.
Larry Bird, il n'est pas numéro 1 de draft. Hein.
Larry Bird, il n'est pas numéro
1 de draft.
Non, c'est la même année que
moi. Je vais dire Moses Malone, il n'est pas numéro 1 de draft.
Allez, Stephen.
Je vais dire.
La grosse cote. Je sens que tu vas l'avoir. Allez.
Je vais dire.
Oh! Allez.
Je vais dire quelqu'un, t'inquiète.
Oui, bah.
Je vais dire Will Chamberlain.
Will Chamberlain. Et non, pas numéro 1 de draft, je l'ai pas. Alors, Fred, Fred a gagné tout simplement. Vas-y, Alex.
Moi, j'aurais dit Abdul-Jabbar. Mais...
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Je suis une merde.
Andrew Bogut
avec les Warriors. Attends, j'ai pas checké. Je vais demander à Geoffrey.
On refait le jeu.
Andrew Bogut, si.
Andrew Bogut, oui, avec les Warriors.
Oui, champion NBA, Andrew Bogut.
Alors, Anthony Davis.
Bah, t'as gagné.
Messieurs.
Oui, mais il était déjà éliminé.
Ah, t'es déjà éliminé. Ah oui, exact.
Anthony Davis.
Kyrie
Irving. Dwight Howard. Alors, ensuite, dans les plus durs, Glenn Robinson. Big Dog avec les Spurs en 2005. James Worthy.
Oh oui.
Marc Aguirre avec les Pistons, Bill Walton, Portland et Boston, Elvin Hayes et Oscar Robertson.
Très bien.
Sur les récents quand même, Anthony Davis, Kyrie Irving, je pense que il y a quand même des
catastrophiques.
Mais bon, ça fait si t'avais dit All-In. Bon bah victoire de Fred.
All-In.
Et voilà. All-In
ouais, mais Will Chamberlain, il s'est fait les Harlem Globetrotters.
Oui,
il a tout gagné avec eux.
Merci messieurs pour ce 101e numéro de Basket Time. On se retrouve la semaine prochaine où il sera évidemment en question du vainqueur de ces finales NBA 2022 mardi prochain. Merci de votre fidélité.
Match 8 peut-être.
Ouais, peut-être un match. Merci beaucoup Stephen, merci beaucoup Fred, merci beaucoup Alex. Très bonne semaine basket.
Ciao.
Bye.
RMC Basket Time.